Chapitre 3 de la Genèse, chute de l'homme par la séduction. Or, le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Quoi ? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin ?» Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point. » Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez nullement, mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, et qu'il était agréable à la vue, et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea. Et en donna aussi à son mari auprès d'elle, et il en mangea. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent des feuilles de figuier, et se firent des ceintures. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui se promenait dans le jardin au vent du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent de devant la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit, « Où es-tu ? » Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai craint, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et Dieu dit, « Qui t'a montré que tu es nu ? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger ?» Et Adam répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ? » Et la femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et toi, tu la blesseras au talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai beaucoup ta peine et ta grossesse. Tu enfanteras des enfants avec douleur. » Et tes désirs se tourneront vers ton mari, et il dominera sur toi. » Et il dit à Adam, « Puisque tu as obéi à la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Tu en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Or, Adam appela sa femme Ève, vie, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des robes de peau, et les en revêtit. Et l'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, prenons garde qu'il n'avance sa main, et ne prenne aussi de l'arbre de vie, et qu'il n'en mange, et ne vive à toujours. » Et l'Éternel Dieu le fit sortir du jardin d'Éden, pour cultiver la terre d'où il avait été pris. Il chassa donc l'homme, et il plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la lame d'épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie.
Donc j'ai intitulé le message d'aujourd'hui, j'ai intitulé « Le paradis perdu ». Donc c'est l'histoire de la Genèse chapitre 3. Mais avant de parler vraiment de notre difficulté d'homme perdu, je voudrais parler en premier de Dieu, que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu aime. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Jean nous le dit dans son épître, Dieu est amour. Alors aimer, c'est faire et vouloir le bien en faveur de l'autre. C'est ça quand on parle de l'amour, c'est le faire le bien en faveur de l'autre ou vouloir faire le bien en faveur de l'autre. C'est jamais le vouloir faire du mal. Ça, c'est pas l'amour, c'est le contraire. Donc rappelons que Dieu, qu'on a parlé de ça déjà deux fois, Dieu, il connaît toutes choses. Il connaît 100% nos actes, nos pensées, nos passés, nos avenirs. Quand Dieu n'avait même pas commencé notre création, il connaissait déjà la fin. Parce qu'il connaît toutes choses en tout temps. Donc, quand Dieu dit à Adam, tu ne mangeras pas de cet arbre-là, il avertit par amour, en ne voulant pas que Adam connaisse le bien et le mal. Pourquoi? Parce que le jour qu'il allait manger de cet arbre-là, il allait mourir. Il allait entraîner toutes les conséquences de misère, de mort, de maladie, de souffrance, de pauvreté. Vous faites la liste. Tout ça revient à cet avertissement. Ne mange pas de cet arbre-là. Ce n'était pas un acte de haine de la part de Dieu, mais c'était un acte d'amour, de vouloir le bien d'Adam et de toutes ses descendances. Eh bien non, il a tout gâché quand même. Donc Dieu a averti concernant le mal et de ses conséquences. Pourtant, maintenant que Adam a péché, Dieu continue à nous aimer. En dépit du péché, Dieu continue à nous aimer. Il appelle chacun à la repentance avec l'objectif de pouvoir renouveler ou de naître de nouveau, de restaurer une bonne relation entre lui-même et le pécheur. Alors, il y en a qui vont dire le contraire, que Dieu n'aime pas tous les hommes, que Dieu prédestine la grande majorité de l'humanité à l'enfer, que Dieu n'est pas à la recherche de l'homme, il ne veut pas le bien de l'humanité, etc. Et on va voir aujourd'hui que non, ce n'est pas du tout comme ça. Dieu nous aime, il aime chacun. Nous pouvons proclamer l'évangile à l'entendance de tous. Dieu vous aime et Dieu voudrait vous sauver. On peut le dire à tout le monde. Donc, à la fin, il faut revenir à cette idée que Dieu aime et à savoir que dans son amour, Dieu limite les dégâts du mal. Alors pour nous, on va dire, ben, nous avons vu le mal qui était fait. Comment Dieu a limité ça? Mais nous ne savons pas les limites du mal. On voit dans l'histoire de Job, comment Dieu dit au diable, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas dépasser cela. Oh, mais le tsunami a tué, je ne sais plus le chiffre, presque 300 000 personnes. Ça aurait pu être 500 000 personnes, ça aurait été pire. C'est toujours, ça aurait toujours être pire, mais Dieu limite les dégâts. Donc, il faut le voir comme ça, que Dieu, il empêche que le mal soit aussi mal que le mal pourrait être. Donc, on va voir un peu ce chapitre. Chapitre 3, verset 1, verset 4 et verset 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Au verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc on voit bien le diable a tendu le piège. Globalement, il a dit, n'écoutez pas Dieu. Dieu, il ne vous aime pas. Il vous ment. Il vous cache le bien. Il mentait. C'est drôle comment le menteur ment à propos de l'autre qui est bien et dire que l'autre qui est bien est menteur et qui ne veut pas le bien. Tandis que c'est le diable qui a menti et voulu détruire Adam et Ève pour le faire mourir. Alors, il est vrai, il dit dans le texte que le fruit était agréable à voir. Ça semblait être bon à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence.
Alors pourquoi pas manger?
Eh bien, parce que Dieu a dit, il ne fallait pas. Il ne faut pas manger de cet arbre-là. Certainement, c'était bon à manger. Le goût était peut-être bon. Qui sait? Mais c'était interdit. C'est la seule règle que Dieu avait donnée. Il les a laissés libre activité dans tous les autres domaines. Et donc, c'est sur ce point-là que le diable est venu leur tendre le piège. Aujourd'hui, il est rare que nous nous laissons tenter à commettre un péché qui ne semble pas être, on va dire, bon ou agréable ou désirable ou intelligent. Ah oui, si seulement. Quelque chose dans la tentation nous attire, nous plaît, nous excite. Et donc on passe à l'acte. On va réfléchir un peu et puis on va participer, on va le faire. Bon, j'ai vu dans une publicité sur la télévision où on nous dit, c'est un avertissement, il a dit, le point faible de la sécurité informatique, hein, parce que c'est un problème aujourd'hui, la sécurité informatique, n'est-ce pas? Donc c'était une publicité sur la chaîne de la Belgique, BFM. Ils ont dit, le point faible de la sécurité informatique, c'est vous. C'est vous. Il y a la sécurité sur Internet, mais si on ne l'utilise pas, si on le dépasse, on m'a dit, ah mais, c'est dans ce domaine, je suis très habile à dépasser les règles. Hein? C'est nous qui sommes le problème dans ce qui concerne la sécurité informatique. Nous sommes, depuis que Adam a péché, nous sommes pécheurs. L'être humain est pécheur, déréglé, et porté vers le dérèglement destructif. Il y en a qui se privent, qui ne mangent pas, d'autres qui se goinfrent, il y en a qui se coupent. Toutes les manies sont des dérèglements. Il y a ceux qui ont des manies contre les microbes, il y en a qui ont des manies d'insalubrité, il y en a qui ont des manies de nettoyage, d'épargne ou d'épargne excessif, et autres qui ont les manies de gaspillage. Ce sont tous des dérèglements vis-à-vis de ce qui est normal pour l'être humain suite au péché. Les habitudes néfastes qui nous lient à l'immoralité sur Internet, donc le point de la publicité, de ne pas participer. Et pourtant, quand Dieu a dit ne mange pas, qu'est-ce qu'Adam a fait? Il a mangé. Donc, quand la publicité et le gouvernement dit « faut pas faire ça », après les gens vont le faire quand même. Mais nous, les chrétiens, ne devrons pas. L'utilisation hors mesure, donc je parle des habitudes néfastes qui nous lient, hein? L'utilisation hors mesure des jeux vidéo, des dépendances sur l'alcool, le tabac, la sexualité à risque, les jeux de paris, il y en a de plus en plus la publicité pour faire du poker. Vous imaginez les comptes bancaires et la misère des familles par la suite. Le loto, j'étais dans une boulangerie, je faisais une étude et je buvais mon café et puis il y avait un couple qui s'est installé là. Et puis, pendant au moins 10 ou 15 minutes, ils avaient des fiches de loto. J'ai dit, ah, vous coloriez? Ils ont dit... Oui, oui, on colorie. J'ai dit, mais j'ai pas mes lunettes. Je n'avais pas mes lunettes sur le visage. Combien d'argent ils ont payé pour toutes ces cartes-là? Il y avait deux personnes pendant 15 minutes qui grattaient. Il y a un problème là. Hein? Ils ont perdu le contrôle de soi. Ça, c'est un dérèglement. Et vraiment, la liste est sans fin. Hein? Nous sommes portés vers l'esclavage en ce qui n'est pas bon pour nous. Genèse chapitre 3, verset 2. On parle de la femme. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Après, donc au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit du fruit et en mangea. OK? Donc là, on voit bien qu'elle était trompée. Dieu avait dit, ne mangez pas. Et à la fin de tout ça, il dit, elle a mangé. Et le Nouveau Testament nous dit que Ève était trompée. Il avait dit la chose juste qu'il me fallait pour le tromper dans son raisonnement et de voir autre que la volonté de Dieu. Comment éviter pour nous? Comment éviter le faux pas? Comment éviter le péché? Comment résister à la tentation? Eh bien, je vais vous dire de rejeter la tentation, de ne pas discuter sur l'affaire et de prendre la fuite. Partez. Ah, mais seulement si je considérais, ben, peut-être avec ma carte bancaire, je pourrais mettre quand même 200 euros dans cette poker. Et puis, boum, après, ah ben peut-être avec 50 de plus, je pourrais regagner mes 200 que j'ai perdus. Boum, ah mais 250. Ben, au lieu de discuter, arrêtez, partez, ne participez pas. C'est comme ça que Ève aurait dû faire. Mais non, elle a discuté avec le diable. Et qui, pensez-vous, était plus intelligent, plus habile? C'était le diable. Si vous discutez avec le diable, il va vous tromper aussi. Et vous allez commettre des faux pas et des péchés. Verset 6 encore et le verset 7. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, la chose avec Adam, c'est que le Nouveau Testament nous dit qu'Adam n'était pas séduit. Adam s'était rebellé contre la volonté de Dieu. Il a vu ce qui est arrivé à sa femme et il a dit, je vais faire la même chose. Il a réfléchi, il est passé à l'acte, non pas par la tromperie, mais par une volonté. Il a rejeté toute la bonté de Dieu, tout son environnement parfait, le paradis où il était. Et non, je ne veux plus. Et des fois, c'est conséquence comme ça que nous, on va décider de faire un péché qui va gâcher toute notre vie future. Un péché qui détruit tout. C'est souvent le cas. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Il a rejeté l'avertissement bénéfique de Dieu quand Dieu a dit, ne mangez pas, tu mourras. C'était bénéfique. Dieu a dit, restez dans le bien, Adam a dit non. Et il y a eu des conséquences. Il y a toujours des conséquences à nos péchés. toujours des conséquences. Première chose, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Il est mort spirituellement, il est mort, son esprit est mort sur le champ, il était séparé de Dieu pour le temps et pour l'éternité. Après, il y en a ce qu'on appelle la dépravation totale. Donc, ça veut dire déjà la mort spirituelle. Mais le problème avec certains, ils vont dire que la dépravation totale va au-delà de notre esprit et qui dit de tout notre être est mort. Aussi, on ne peut rien comprendre, on ne peut rien voir, on ne peut rien réfléchir, etc. Et ça, ce n'est pas vrai. Tout est corrompu, tout est déréglé en notre être, notre raisonnement est fautif, etc. Mais on peut quand même raisonner, on peut quand même réfléchir, on peut prendre des décisions. Et on est responsable de nos décisions. Ce n'est pas Dieu qui devient responsable de nos péchés. Et c'est probablement même pas le diable qui est responsable, mais c'est certainement nous qui sommes responsables de nos décisions. Et donc, on parle de la dépravation, qui est le fait que toutes nos facultés sont corrompues. On peut réfléchir, il y a des gens très intelligents, mais même ces gens-là, ils font des fautes dans leur raisonnement, parce qu'on est tombé, on est chuté de la création, l'homme, la création que Dieu voulait qu'on soit. On a aussi la culpabilité, on a une conscience qui nous condamne. J'ai fait ceci, il ne fallait pas, et ma conscience dit, ah, tu es coupable. Et dans la culpabilité, on a la condamnation qui est la mort physique. Donc Adam est physiquement mort 900 quelque chose d'années plus tard, bien qu'il était tout de suite mort spirituellement, le processus de la mort était déclenché et son corps parfait. Vous imaginez des hommes musclés et tout ça aujourd'hui. Adam était l'homme parfait. Alors il avait tous les muscles, toute la santé, toute la respiration comme il fallait. Mais maintenant, il y a le germe de la mort qui était déclenché et à la fin, il est mort. Et on verra probablement la semaine prochaine, donc chapitre 4, chapitre non, ce sera dans deux semaines, chapitre 5, on dit le cimetière de la Bible parce que tous là-dedans ont vécu et ils sont tous morts, sauf Enoch. Condamnation physique et feu éternel. Aussi, l'environnement était gâché. L'environnement qui était bénéfique à l'origine, il était dans le jardin de Dieu, le paradis terrestre. Eh bien, l'environnement est devenu hostile. Et il était chassé du paradis. Et Dieu a fermé à clé. Alors là, on dit, oh, c'était pas gentil de la part de Dieu de fermer à clé le paradis. Mais on a vu dans le texte que Franck a lu tout à l'heure, à la fin, on va relire le verset à la fin du chapitre. Alors, verset 22, l'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, et empêchons-le maintenant d'avancer sa main et prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. » De vivre éternellement dans son état de péché. Ce n'est pas de vivre éternellement dans le bonheur, mais de vivre éternellement dans la misère de son péché. Il faut qu'on meure pour qu'on puisse ressusciter. Donc, c'était une bonne chose que Dieu a dit qu'il y aura une fin à la vie d'Adam et de nous tous. Ce qui permet que nous nous débarrassons de notre corps mortel et que Dieu nous revêtira par la suite, dans la résurrection, d'un corps immortel, qui ne peut plus pécher, qui ne peut plus souffrir, etc. Amen. Je voulais dire que, quelque part, est-ce que c'est ici, j'ai amené des feuilles. Donc j'ai des feuilles quelque part. caché. Excusez-moi. J'ai fait une petite mise en papier là de cette question de la dépravation totale. Qui est l'homme perdu? Donc, ça commence dans un livre de théologie. Donc, c'est un livre qui est respecté et très bien. Et ce n'est même pas de mon point de vue théologique, mais pour dire que l'information est très bien. Et donc, ça parle de la révélation que Dieu illumine les hommes pour qu'ils comprennent les choses. Et à partir de cet point, donc le texte que j'ai photocopié dit, comment donc l'homme peut-il recevoir la communication de Dieu? Okay? Et ça explique cette question de l'homme dans sa dépravation. Ça explique ces choses. Donc, si quelqu'un voudrait approfondir leur connaissance dans ce domaine-là, eh bien, vous pouvez le faire en lisant ça. J'ai fait 4 exemplaires, mais je peux faire d'autres. Donc, je voulais revenir donc au verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu, loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu du jardin, des arbres du jardin, excusez-moi. Mais l'Éternel Dieu appelait à l'homme et lui dit, « Où es-tu ?» Intéressant déjà. Depuis le début du péché, Dieu n'était pas confondu, il n'était pas ignorant du fait que Adam ait péché, mais il voulait que Adam reconnaisse sa faute. Dieu dit, « Eh bien Adam, je suis ici, où es-tu ?» On avait l'habitude de se voir dans le temps. Aujourd'hui, tu es coupé de moi. Où es-tu? Alors, Adam a répondu, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Il n'avait pas peur avant. Parce que je suis nu et je me suis caché. Alors, l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? C'est intéressant que Dieu a posé une question. Moi, j'aurais dit, tu l'as fait! Mais si Dieu avait dit, tu l'as fait, Adam aurait dit, non, je ne l'ai pas fait! Donc, il aurait menti tout de suite. Donc, Dieu voulait susciter non pas une réaction négative, mais une confession. Vous vous souvenez comment sa confession? Oui, c'est vrai, mais c'est ma faute. C'est la faute de ma femme. Il passe la responsabilité, donc ce n'était pas ça bien. Hein? Dieu voulait qu'il reconnaisse et qu'il soit responsable de son acte. Et non, il a reconnu, oui, j'en ai mangé, mais c'est sa faute à elle. Et puis Dieu demande encore à la femme, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, c'est vrai que je l'ai fait, mais c'est le serpent qui est responsable. Et on voit dans le cheminement que Dieu dit au serpent, tu l'as fait. Parce qu'il l'a fait. Mais aux deux hommes, homme et femme, il pose la question pour les pousser à réfléchir et à reconnaître leur culpabilité. Alors, dans cette idéologie qui pense que Dieu ne veut pas sauver tout le monde, et qui pense que l'homme, dans son état de péché, ne peut rien entendre de Dieu, eh bien, il est intéressant de savoir qu'avec Adam, Dieu a parlé. Où es-tu? Et Adam, dans son péché, a entendu la voix de Dieu. As-tu fait cela, Adam? Est-ce que tu as mangé? Et Adam n'a pas dit, ah ben, je suis sûr, Dieu, je n'entends pas. Il a dit, oui, mais c'était la faute de ma femme. Il a bien entendu.
Oui, mais en plus, il dit, c'est la femme que tu m'as donnée.
Ah oui, oui, oui. Donc, il remet la responsabilité sur Dieu. Tu as raison.
Oui, c'est la femme que tu m'as donnée. Tu m'as donné une femme.
Angela a raison. Voilà. Donc, de toute façon, l'idée, c'est qu'il rejette sur l'autre. Mais tu as raison, merci. OK. Donc, je voulais venir donc à la fin, au verset 15, Dieu va parler de la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent. D'accord? Et ça, c'est on dit le proto-évangile qui fait une promesse déjà depuis le début du péché qu'un jour Dieu va envoyer son fils pour mourir pour le péché. D'accord? En attendant, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais je voudrais montrer qu'il y a quand même un schéma biblique qui est toujours vrai. Donc, si vous trouvez que ce n'est pas vrai quelque part, montre-le-moi parce que moi, j'ai essayé de réfléchir à des cas au contraire et je n'ai pas pu trouver des cas au contraire. Donc, le schéma biblique est comme ça. Tout commence avec Dieu. Tout commence avec Dieu. Ça commence toujours. Nous aimons Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a aimés en premier. Ça commence toujours avec Dieu. Second point, Dieu connaît d'avance. Depuis le début, depuis même avant la création, il connaissait tous vos péchés. Tous mes péchés. Tous les péchés du monde entier. Dieu n'était pas pris à l'improviste quand les gens commençaient à faire le mal. Il savait qu'ils allaient le faire. Et pourtant, il voulait créer un être capable de recevoir son amour et de répondre à son amour avec un amour volontaire. Donc, à comprendre que Dieu, il connaît toutes choses d'avance, nos problèmes, nos difficultés, nos péchés, tout. Et Dieu prévoit la solution à nos problèmes, déjà avant qu'ils aient même eu lieu. C'est pour ça qu'il a dit, ne mange pas, tu mourras. Et par la suite, il donne des autres prophéties, etc. Depuis la Genèse, jusqu'à travers le Proverbe et jusqu'à l'Évangile, Dieu enseigne la sagesse et il plaide avec les hommes à prendre des bonnes décisions. L'homme est responsable, il est capable et responsable de prendre les bons choix. La responsabilité est toujours entre les mains de celui qui risque à bénéficier ou à perdre selon ses choix. Quelqu'un peut sortir prendre le... Ça, c'est notre repas là, dehors. C'est déjà payé. Par la suite, il faut savoir que Dieu parle avec un message, le message de sa solution, de salut, de l'aide, etc., égal à tout le monde. Il n'a pas dit, je vais aider ces cinq-là et je vais condamner tout le reste. Le message du salut, les solutions de Dieu sont les mêmes solutions pour tout le monde. Et l'homme écoute ou l'homme n'écoute pas. L'homme pécheur est rendu par Dieu capable d'entendre le message de Dieu. Depuis Adam, Cain, Noé, on peut entendre le message de Dieu. Mais par la suite, est-ce qu'on écoute ou est-ce qu'on rejette? Quand on rejette, on voit dans Romains chapitre 1 que l'endurcissement est un jugement naturel de la part de Dieu. Quand on rejette le message de Dieu, on s'endurcit. Et quand Dieu parle encore plus, on rejette encore plus, on s'endurcit plus. Donc, quelque part, donc on peut dire que c'est Dieu qui endurcit, mais c'est la personne en fait qui endurcit et il est embêté par le message de Dieu. Le plus que Dieu parle, le plus qu'il s'endurcit. Pourtant, Dieu s'efforce à chercher à sauver la vie jusqu'au dernier moment. Et on a des exemples nombreux, par exemple, les sacrificateurs qui avaient persécuté Jésus, qui se sont convertis dans le livre des Actes des Apôtres. Dieu aurait pu les condamner et les tuer tous. Et pourtant, il y a un grand nombre de prêtres et de sacrificateurs qui se sont convertis à Jésus, qui avaient été contre lui dans les évangiles. Paul aussi est un exemple des pharisiens qui étaient acharnément contre Jésus et pourtant, plus tard, convertis à Jésus. Dieu cherche jusqu'aux dernières minutes à amener les âmes à lui pour les sauver. Alors l'homme se laisse persuader ou il rejette. Et on voit dans l'insistance de Pierre dans Actes chapitre 2. « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Il y a beaucoup d'émotions. Il insiste, il dit, par beaucoup de paroles, il le disait de se repentir de cette génération perverse. Dieu insiste, il veut faire l'homme revenir sur ses bons sens pour être converti. L'homme se repent et croit au message de Dieu. Donc, évidemment, avant le péché d'Adam, il n'y avait pas à se repentir. Il avait simplement à croire à la parole de Dieu. Et non, il a cru aux paroles, à la parole du diable au lieu de croire à la parole de Dieu. Mais pour nous, l'homme se repent et croit au message de Dieu. Et donc, il y a plein d'exemples de ça dans la Bible. Celui qui agit ou réagit bien reçoit la bénédiction de la grâce non méritée. Et celui qui agit ou réagit mal reçoit le jugement approprié. Celui qui ne croit pas sera condamné. Celui qui croit sera sauvé. Et les exemples, il n'y a pas la fin des exemples. Adam, Ève, Caïn, Noé, Abraham, Zacharie, le père de Jean, Joseph, Marie, tous les Juifs de Pentecôte, Corneille, le geôlier, Lydie, les disciples de Jean, etc. C'est toujours la même chose. Ceux qui croient sont sauvés. Et ceux qui ne croient pas restent condamnés, toujours avec la possibilité jusqu'à la fin à se convertir, à se repentir, à croire. Un exemple, c'est la tante de Sophie qui rejetait pendant toute sa vie le message de l'évangile, se moquait de sa sœur, de la foi et tout ça. À peu près 2 semaines avant de mourir d'un cancer, elle s'est convertie. Elle a appelé à sa sœur, donc la maman de Sophie, de venir pour qu'elle puisse se pardonner et confesser à sa sœur qu'elle avait toujours eu cette réjection de Dieu, comment elle s'était convertie à Jésus. Alors, c'était presque à la fin, là, 2 semaines avant de s'éteindre. Hein. Mais Dieu, il aime et il veut le bien de tout le monde. Le proto-évangile, la postérité qui va venir écraser la tête du serpent, donc le Seigneur Jésus-Christ, il est venu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tous peuvent se convertir. Tous peuvent être sauvés. Mais Dieu ne force pas. L'amour n'agit pas par contrainte. Hein? Si on oblige le mari à aimer sa femme, ce n'est pas amour. Si on l'oblige à acheter des fleurs pour sa femme, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est volontaire. Dieu, par bonne volonté, veut sauver l'humanité. Et tous ceux qui veulent croire, ceux qui réagissent bien à l'annonce de l'évangile, eh bien, il reçoit la bénédiction promise, le salut. Amen.
Amen.
Amen.